Donc là maintenant on va s'attaquer à la façon dont les nœuds de stocker les données, c'est-à-dire de stocker alors comment est comptée la masse monétaire et comment les nœuds stockent cette masse monétaire, enfin surtout qui possède quelle part de monnaie. Voilà. Là, on a ouvert toujours dans doc, alors c'est la doc la plus embrouillon de notre repository. Donc elle s'appelle open-exchange-format. Alors le nom est un peu inspiré du nom de la RFC 4680 qui s'appelle open-exchange-format, qui spécifie pas mal beaucoup de choses. Quoi. Donc tout à l'heure j'ai parlé de fiche de création. On va voir si je peux aussi créer la création de sheet. Voilà, création sheet, voilà. Donc on va partir sur le début, une création de sheet, ce qu'on appelle les fiches de création. Donc comme la monnaie est basée sur l'individu, tout à l'heure j'en avais aussi parlé, régulièrement, on poste un multipart msigned, donc un post, un beau post HTTP, un multipart msigned au nœud du réseau, qui sur une interface. Donc là on voit la liste des interfaces, c'est-à-dire les URL que se doit de gérer un nœud OpenIDC. Alors on voit qu'il y a des interfaces, que c'est pas moi qui les ai inventées, elles sont là, c'est PKS add et PKS lookup. Typiquement, ce sont les deux interfaces spécifiées par la norme, par le standard HKP, qui est serveur. C'est ces deux interfaces dont on sert pour juste celles dont tu viens de se servir, Stéphane Klein, quand tu as envoyé ta clé. En fait, tu as fait un post à une URL PKS add, voilà, qui est standardisée. PKS lookup, c'est celle dont on sert pour récupérer les clés ou lister les clés. Voilà. Donc l'interface sur laquelle on envoie les fiches de création, c'est UDC create. Voilà. Donc là, on atteint un multipart msigned qui contient quoi ? Toutes les diffs au niveau des clés. Donc les clés sont identifiées par leur fingerprint. Donc c'est un mot de... C'est comme le SHA-1, c'est un SHA-1 d'ailleurs, c'est 40 bits je crois. Ou 40 octets, je ne sais plus, il faudrait que je compte. Vous savez plus, c'est 160 bits, 168, ouais, 160 bits, 40 octets, merci. Voilà, c'est avec...
20 octets de données, mais 40 en hexadécimal.
Oui, 40 en hexadécimal, merci. Exactement. Non, mais c'est très important parce que pour la taille de la database, c'est là qu'on voit aussi, c'est quand on fait les comptes de la taille de la database. Ce qui est là, j'ai mal préparé, mais c'est ce qui permet donc d'avoir des databases très réduites. Et aussi donc du fait même que la masse monétaire est en croissance exponentielle, il est beaucoup plus difficile de faire comme pour Bitcoin une base de données de taille fixe, je peux dire. Mmh. Voilà. Donc là, pour l'instant, je pense que c'est possible, mais je ne sais pas du tout comment l'implémenter.
Est-ce que c'est uniquement les nœuds qui contiennent toutes les transactions ou chaque personne a toutes les...
Non, c'est que les nœuds qui contiennent toutes les transactions.
On ne parle pas des transactions, hein, c'est les unités monétaires.
Oui, oui.
C'est pas pareil, parce qu'après il va parler de transactions, donc comment se font les transactions de personnes. Et là, il y a bien des unités monétaires, c'est pas du tout pareil que d'avoir des comptes ou des transactions au programme. Les unités monétaires sont reconnues. Hein, donc si on n'a pas changé par rapport à ce qu'on avait dit, elles sont signées par l'individu qui en est la racine, en fait.
Voilà.
D'accord. Et ces unités monétaires ne sont pas découpables en plus petits morceaux.
Non.
En fait,
en absolue. C'est comme des pièces et billets, sauf qu'au lieu des 5, 10, 20, 30, c'est des multiples de 2. Il y a des unités de valeur 2, de valeur 4, de valeur 8, 16, 32, 64 et compagnie.
On peut pas les découper,
mais on peut les échanger.
Ça ne fait que des 1,
oui,
pour éviter que ça prenne trop.
Exactement, exactement. Comme dans le tiroir caisse de ton boulanger actuel. On n'achète pas tout avec des pièces de 1 centime. C'est exactement pareil. Donc si vraiment tu as besoin de monnaie, tu les changeras avec quelqu'un d'autre. Ou tu fais un double échange, tu fais une double transaction. Une transaction où tu donnes plus et l'autre tu te rembourses. Ou tu passes par un tiers encore qui peut te faire la monnaie.
Elles ont du coup toute, toute la communication avec le nœud est chiffrée, est signée avec GPG.
Et du multi.
Le nœud nous renvoie, ce qu'on envoie, c'est.
C'est du multipart MCNET
de non, partout.
Presque partout.
C'est bon.
Voilà, exactement.
Enfin, c'est ça le principe, peut-être que c'est pas encore fait. Mais...
Non, si, enfin, c'est ça le principe, c'est. Presque partout, c'est du multipart MCNET. Enfin, ça dépend, parce qu'il y a des trucs, les bases de données, les fichiers bases de données, en fait, c'est des fichiers, donc on va définir notre propre. Plutôt qu'utiliser une base de données externe. On va définir notre propre truc, c'est ce que vous voulez, c'est le cœur de ce que vous voulez nous montrer. Et ce qui permet ensuite, en utilisant l'HTTP range, une base de données de taille fixe, d'avoir beaucoup plus directement, savoir quel outil de monnaie appartient à qui, quoi, si on veut, mais ce n'est pas indispensable.
Alors, peut-être une petite remarque par rapport à la taille de base de données de base fixe. Ce qui est possible d'imaginer, alors techniquement, ce n'est pas une réponse, mais conceptuellement, vu qu'au bout de 40 ans, on va dire, hein, l'ancienne monnaie pèse plus, ça tout le monde a compris. Bon, ce qui fait que cette ancienne monnaie, on peut considérer de fusionner les grains. Les grains sont identifiés, d'accord, mais on peut les fusionner au bout de temps, parce que déjà, c'est de la petite monnaie, si vous voulez, c'est des centimes, et voire même des centimes de centimes, donc plus on ne les perd pas, parce qu'il n'y a pas raison de détruire de la monnaie, qu'on ne crée pas, on ne détruit pas ce qu'il y a sur Terre, on le transforme, donc c'est pareil, on peut transformer ces grains avec deux unités, un ancienne, on en fait deux par exemple, ou on en prend 10 pour en faire une nouvelle, d'accord. Et on peut les récupérer, on peut faire des transactions entre comptes éventuellement pour compenser. Donc c'est faisable techniquement.
On pourra réduire, ouais, techniquement.
Techniquement c'est pareil faisable, on peut récupérer ces trucs pour les mettre dans un compte particulier, les fusionner, on compense ceux à qui on les a pris par d'autres unités, et donc les anciennes finalement que se condensent, et avec 10 on n'en fait plus qu'une. Et comme à 10 on n'en fait plus qu'une, si vous voulez, sur les plus anciennes, la base n'augmentera pas à un nombre de membres constant.
C'est un concept, oui, c'est un concept qu'on pourra développer plus tard, c'est-à-dire que les fichiers de base de données, de merger des fichiers de base de données dans des fichiers de base de données plus grands. Là on va avoir justement la
Oui, non, je veux dire, parce que de toute façon, pour un seul compte, on pourra avoir une seule fiche, enfin, qui ressemble toute la monnaie qu'il a.
Enfin, alors attends, je vais y aller. Donc bon, l'APKS, c'est ce qui était défini, ADNCOPS sont définis par HKP. KLIST, ça c'est quelque chose que je rajoute moi, parce qu'en fait il faut inventer un mécanisme de synchronisation, même un peu comme SKS, sauf que SKS il est bâtard, et puis j'ai pas assez étudié. Ça c'est par rapport, KLIST et point PIR, c'est justement pour le mécanisme de synchronisation entre les paires au niveau des clés. C'est-à-dire qu'il faut que les serveurs de clés synchronisent, qu'il y ait un mise à jour, qu'il y ait un mise sur l'autre. Tout ça, c'est à faire. Donc, CREAT, c'est pour les fichiers de création. Lookup, pour l'instant, je l'ai gardé, c'est justement pour faire une requête sur les bases de données, en direct, pour savoir quel droit. Validate, c'est plus important, c'est pour envoyer les transactions, c'est ce qui est le plus utilisé. Et log, ça serait peut-être optionnel, ça serait pour garder des logs des transactions. Ensuite, une fois que les fichiers de création, ça c'est pareil, c'est pour stocker les fichiers de création. En fait, l'idée c'est de mettre les fichiers tels qu'ils sont utilisés par l'API, aussi disponibles en clair, à plat, sur le serveur. Puisque c'est aussi des serveurs HTTP, voilà, des requêtes. Et... Ça pourrait être utile, je ne sais pas. Au moins pour une première version, ça pourrait être utile. Donc d'avoir tout ça. Sinon, dans l'absolu, le plus important c'est Create et Validate. On pourrait faire une interface, dire que c'est ces deux-là qui sont nécessaires, les autres sont optionnels. Les autres sont optionnels. Ensuite, justement, du coup, la database derrière, mais si on veut des perfs, vu qu'on a des données de taille fixe, toutes les clés font 20, tous les fingerprints sont taille fixe, tout est taille fixe, on peut très bien, donc on n'a pas de chaîne de caractères à gérer de taille variable, et on peut très bien faire un truc, un vrai tableau carré, quoi, et tout, et du coup, aller faire pointer directement, c'est, tu vois, aller chercher directement les infos suivant. Non, tout est taille fixe, c'est assez génial pour ça. Ça permet de gagner énormément en perf. Donc, Pierce, tout ça c'est pour la gestion des Pierce. Donc, Pierce c'est aussi nécessaire, ça par contre c'est required, mais c'est pas trop défini. Donc, self c'est pour obtenir des informations sur le propre pair en question. Register c'est pour qu'un nouveau pair s'enregistre auprès d'une liste de pairs. Et list, c'est typiquement c'est la liste des paires connues, qui doivent être la même pour tous les paires. L'idée c'est que tous les paires se connaissent de façon égale. Et c'est pourquoi c'est utile pour propager les transactions de façon intelligente en fait. C'est-à-dire pour se synchroniser de façon intelligente, il faut se connaître chacun pour savoir dans quelle direction vont la propagation d'informations. Voilà. Donc on va revenir sur les unités monétaires et sur la création de sheet. Alors une unité monétaire, c'est quoi? C'est donc une valeur. Donc on a vu 1, 2, 4, 8, 16 à un certain moment. Et ensuite un numéro. Donc en gros, il y a trois données dans une. Bah, comme on a à peu près sur nos pièces et billets, on garde nos billets, on a un numéro de série, on a une valeur et on a une date. Voilà. Bah, là c'est pareil.
Une signature.
Et une signature.
C'est signé draguer ou tricher. Ah oui, c'est tout ça. Vous avez que des billets signés soit draguer, soit tricher.
Bon, là, la signature, à la fiche de création, c'est tout le monde. Quoi. C'est tous les, ce que j'appelais les élus tout à l'heure ou les votants. C'est tout. Il n'y a pas qu'une seule signature. Mais la signature, elle n'est même pas dedans, elle est à côté. Mais c'est exactement le même principe. Et du coup, en fait, donc, ce qu'on voit, les fichiers de base de données, typiquement tel que j'ai dessiné ici, donc database, création sheet num, donc c'est la fiche de création, voilà. Un numéro qui incrémente au fur et à mesure de la fiche de création. Et puis ensuite, pour chaque valeur, dans chaque fichier, donc chaque fichier représente une valeur. Et ensuite, dans chaque valeur, j'ai juste à stocker les 20 données de fingerprint. C'est tout. Donc typiquement, par exemple, le 1.db, si on a distribué une pièce de 1 centime UDC, bon, 1 UDC, bon, mais tout simple, on va rester en 1, on ne va pas plus parler de centimes puisque c'est que des puissances de 2, de 1 à tout le monde, et qu'il y a 20 personnes, et bah, typiquement, elle fera la base de données, là, elle fera 20 fois 20 octets.
D'accord.
Vous voyez ? Mmh. Voilà, tout simplement. Elle sera tout petite, quoi. C'est vraiment tout petit.
Donc les signatures, elles ne sont pas à l'intérieur ?
Non, les signatures, elles ne sont pas à l'intérieur. Les signatures, elles sont vraiment, vous avez stocké là où la création de sheet numéro 1, bah, c'est là qu'il a vu la création de sheet. Et puis avec toutes les clés justement de toutes les signatures quoi, de tous les gens qui ont voté. Enfin, quand je dis voilà, quand c'est K, en fait c'est plutôt SIG. On va plutôt appeler ça SIG. C'est plutôt c'est les signatures. Là il y a un truc à modifier. Et en plus oui, l'époque, ça maintenant on va séparer parce que je découpais en plus la fiche de signature entre la liste en lui-même et les paramètres. On peut tout regrouper, enfin ça dépend. C'est une façon de voir. La fiche de création contient des paramètres. Et une liste de clés. Donc est-ce qu'on regroupe tout dans le même fichier ou pas? Ça c'est du détail. Et ensuite, et surtout derrière, une liste de signatures qui permettent de valider cette fiche de création. Et dans les paramètres d'ailleurs, bon. Donc on va voir maintenant plus en détail. Vous avez compris le principe de ça? C'est assez simple. Donc les pièces de monnaie qui sont référencées par fiche de création, par valeur et ensuite par numéro. Et du coup, dans la base de données, on n'a même pas besoin de stocker les numéros puisque tout est de taille fixe. Et elle fait au minimum donc le nombre de fois que la pièce a été mise par le nombre de personnes. En fait, quand on dit on va donner par exemple 1000 à chacun, je vais donner un exemple plus simple, 260 à chacun,
256.
Ce qu'on donne 256 plus 4. Donc on pourrait aussi dire donner 2 fois 228. Plus de bon voilà, il y a 30 000 façons de faire. Et ensuite justement ça, quelle est la scalabilité, combien de petites pièces par rapport à une pièce, ça c'est un autre débat. C'est le même débat que les banques se posent quand elles. Enfin que le boulanger se pose avec la banque quand il faut qu'elle remplisse son tiroir caisse pour pouvoir rendre la monnaie aux gens. Sachant que là c'est plus macro global, la monnaie nationale il se pose le même débat. Est-ce qu'on paye combien de coupures de 500 en fait, combien de coupures de 100 en fait, combien de toit, quel est mieux pour l'économie? Bon, ça c'est un détail, ensuite ça rend. L'idée c'est juste d'optimiser la taille, de minimiser le nombre de coupures qu'on a de chacun dans le porte-monnaie, tout en gardant une économie fluide. Donc on pourrait aussi, nous comme on a du numérique, on peut partir sur plus de petites monnaies comme on n'est pas sûr au début, et puis ensuite pour optimiser la perf, on essaiera d'optimiser mieux là-dedans. Voilà. Moins de grosses coupures et plus de petites. Quoi. Ça c'est le détail.
Pour les transactions, là, le dossier transaction, tu en as parlé ou...
Alors le dossier transaction, non, c'est encore plus optionnel. C'est encore plus optionnel, ça fait doublon avec les logs. Ça fait doublon avec les logs, ça c'est pas important, ça c'est doublon avec les logs, c'est l'idée c'est de garder donc tu gardes l'échec. Bon, c'est optionnel ça. Non, les deux choses, d'ailleurs il faudrait le préciser quand même, les deux choses qui sont très importantes, donc c'est create, validate, qu'il faut coder prioritairement, qui ont déjà commencé à être codé. Et puis la gestion de la database, qui elle n'est pas nécessaire d'être publique. Ce qui est public, c'est create et validate qui a besoin d'un public. C'est tout. Create pour envoyer une fiche de création, validate pour valider une transaction. Sachant qu'ensuite tout est signé. Mais bon, si on veut voir un peu plus les entrailles, de pouvoir débugger les serveurs à distance, etc., ça serait bien de mettre tout à plat dans un premier temps. Voilà. Et log, bah, c'est le log des transactions, t'as le personnage, t'as l'autre. Ce qui fait doublon avec ça, puisque ça, c'est justement, j'ai reçu une transaction, c'est juste la mettre de côté. On n'est pas obligé de la mettre de côté. On a mis à jour la database, on a le log. Bon, voilà. Mais si on veut rejouer le truc, etc. Voilà. Par contre, ah oui, ça aussi, le loading peer, la section peer, c'est aussi nécessaire pour que les peers soient identifiés. Et l'idée, ça serait de faire à peu près la même façon pour tous. Et alors, on vient dans HTTPD, de faire une façon qui permettrait aussi de faire du, j'aime pas ce terme, mais du cloud, faire en sorte que des serveurs web se synchronisent de façon dynamique, etc. Une autre idée, on peut ouvrir HTTP. Bon, sinon, c'est toujours la façon la plus simple, c'est que par en dessous, ils utilisent TabweFS, enfin des systèmes, ils se synchronisent au niveau ouais, système de fichiers. Donc, c'est pour être synchronisé. C'est d'autres idées qui sont.
Je pense que le mot que tu cherchais, c'était clustering.
Ouais, clustering. Alors oui, clustering aussi au niveau. Donc au niveau de l'idée de clustering, c'est que tous les serveurs, tous les nœuds devront avoir ça, create and update. Mais au niveau dans le self. Dans le peer self, ils ne seront pas obligés de gérer toutes les fiches de monnaie aussi. Comme ça, une transaction n'est pas obligée de passer par tous les serveurs. On peut très bien donc faire du clustering au niveau des fiches de création. C'est-à-dire que un serveur, bon, c'est de la version N+, c'est pas encore pas pour la version 1, pour la version 1, voilà, un serveur il gère toutes les fiches de création et basta, et ça passe tout est en redondance. Mais on pourrait très bien faire donc des nœuds qui ne gèrent que certaines parties, que des monnaies émises il y a longtemps et d'autres qui gèrent des monnaies plus récentes ou juste des ranges. Et ensuite, quand les clients font les transactions, ils s'arrangent pour essayer de faire des transactions dans des pièces de monnaie qui sont à peu près tous dans la même fourchette de temps. Et du coup, ça me permettrait de ne solliciter qu'une seule partie du réseau de nœuds. C'est ça mon idée de clustering. De clustering, de découpage. Pour éviter qu'une transaction, bah, comme les bitcoins actuellement, soit obligée de passer par vraiment tous les nœuds du réseau. Et ça va m'aider du coup de gérer plus de transactions à la seconde, tout simplement. Parce que c'est ça l'idée aussi qu'on a. Sur le salon, on avait sorti les cibles de transactions à la seconde des monnaies actuelles. L'idée, c'est qu'on ait une architecture qui permettra d'en faire dans quelques années. De faire tout de suite l'architecture qui est en train de faire. C'est un peu sur monnaie. Donc on va revenir sur la fiche de création. Donc les unités de monnaie, vous voyez, elles ne sont même pas stockées. Hein. Là-dedans, là, on voit juste dans un point début, on a juste une liste de fingerprints. Sachant que la première fingerprint dans ce fichier-là correspondra à la pièce de cette fiche de création-là, de cette valeur-là, de numéro de série 0. La deuxième fingerprint de 3. Ensuite, pour plus historique, je pensais en fait rajouter en plus le fingerprint du prédécesseur pour pouvoir mieux vérifier, plus de vérification entre les nœuds, entre les bases de données. Donc au lieu d'avoir 20 octets par truc, avoir 40, plus en plus un compteur. Mais ça, c'est pour faire ceinture plus bretelle. Mais si le minimum nécessaire, c'est que le fingerprint de la personne actuelle. Mais si on veut pouvoir rejouer, par exemple, si on ne fait pas confiance aux nœuds en question et qu'on veut pouvoir rejouer les transactions, c'est important. Pour moi, c'est important que les nœuds, qu'au moins certains nœuds permettent de rejouer l'ensemble des transactions. Au moins pour les versions de debug, les premières versions. Ouais. Mais pour les premières versions, ensuite pour les deuxièmes versions, peut-être qu'on pourra simplifier. Donc, du coup, d'ailleurs, ces bases de données-là, elles ont toujours une en-tête aussi de fixe qui précise quel est le numéro des. Quel est le comment est formatée la donnée qui suit, quoi. Voilà. C'est une gestion de fichiers classique. Donc la fiche de création. Elle contient. Voilà, un exemple de fiche de création. Donc c'est un peu bourrin comme données, mais c'est exactement la seule chose qu'on a besoin d'envoyer pour créer de la nouvelle monnaie. Donc en fait, pareil au début, un numéro de version, un truc qui permet de définir le format de ce qui suit, pour pouvoir éventuellement le faire évoluer. Bon, j'ai mis 42 parce que
comme ça. Faut aller à Magic, voilà, faut un truc à la con. Alors c'est, par contre là vous voyez c'est du format. Bon, je préfère garder aussi ce format texte, qui soit à la fois lisible, intermédiaire entre lisible machine et lisible humain. Pour débugger aussi, ça vaut mieux, parce que si on a que du binaire comme plein de PGP, ensuite bon, c'est un peu galère, on est obligé de passer par des outils. C'est pas super lourd. Si en binaire ça on gagne rien, parce que ce qui va prendre le plus de place, ce sont la liste des clés qui suit, c'est pas les quelques paramètres qu'il y a au début. Et on gagnerait, bah là c'est déjà un hexadécimal, en binaire, ça diviserait juste la taille par deux.
Et puis les réseaux, pour le moment, c'est pas trop problématique.
Voilà, c'est pas trop problématique.
Je trouve que tu parles beaucoup sur les problématiques d'optimisation pour l'instant.
Ouais.
Et je pense pas que ce soit vraiment.
Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Mais ça, c'est mon côté, c'est ma déformation professionnelle, je viens de l'embarquer. J'aime bien que les bits soient comme ça, bien propres. Et pas faire un malloc avec plein de zéros derrière. Et
puis l'HTTP, de toute façon, il a du
Oui, il peut zipper. Enfin, zipper, il y a quelque chose qui est bien en binaire, déjà, tu ne gagnes pas de place. Oui. Zipper du texte avec pas mal d'espace, oui, mais zipper
ouais, si du binaire,
tu ne gagnes pas grand-chose, tu perds plus.
C'est vrai que cette déformation-là, ouais.
Ouais,
c'est ça, ça le truc.
C'est une déformation professionnelle.
Des petits appareils mobiles ou ce genre de trucs, ou ils essayent de faire des enfin, trucs les plus petits possibles, les plus grands. Forcément, on n'a pas forcément, effectivement, cette nécessité sur ça.
Je fais des micro-boots, je fais des petits.
Mais bon, là, effectivement, ça se fait pas super bien. T'as que du hexadécimal et des retours à
la. Et des chiffres, voilà. Donc, numéro de version. Ça, c'est le A, je l'ai pas vu jusque de la fiche de création précédente. Mais il n'y a même pas de nom. On a supprimé dernièrement, donc, il y a une discussion avec donc, Caner et Cédric qui ne sont pas là. On a supprimé le nom de la monnaie, par exemple, on n'a même pas. Donc, on peut l'appeler ce qu'on veut. Et la monnaie, et, de toute façon, elle est forcée d'une fiche de création à une autre, justement, par ce lien. La fiche de création est liée à la fiche de création précédente par le H de la fiche de création précédente. Voilà. Alors là, ce qu'on voit, justement, c'est des factors. Ça veut dire juste donc deux pièces de 1, une pièce de 2, trois pièces de 4, zéro pièce de 8, une pièce de 16, etc. Voilà, ça permet de donner un chiffre de bien nécessaire par personne, qui permet ensuite de créer la base de données. Ça, c'est plus pour vérification, j'hésite encore à le virer ou pas. C'est ce qui permet de. En fait, chaque clé a un niveau. Donc, on a vu, il y avait des votants, il y a des nouveaux entrants, il y a des morts, il y a. Ou des flags. Et justement, je vais le virer parce que des flags, c'est plus souple que de mettre des niveaux. Au début, je voulais mettre des niveaux, mais on va peut-être mettre des flags plutôt.
Ça veut dire quoi, FPR ?
FPR, c'est le limited de fingerprint.
D'accord.
On l'utilise souvent, FPR. On l'utilise aussi partout. FPR, c'est le limited de fingerprint. Savoir. Et le fingerprint, donc. Ça, c'est du OpenPGP, hein. C'est fingerprint. KID, ensuite, c'est une partie de la fingerprint. C'est la dernière partie de la fingerprint. Et même la KID courte, c'est vraiment la toute dernière partie du fingerprint. Tout à l'heure, on va faire une casting party. J'ai préparé des petits papiers pour l'origine. J'ai préparé aussi mon passeport. Cette fois-ci, c'est bien. J'espère que vous avez amené des papiers d'identité, parce que sinon. Ah, super. Super. Donc là, on voit derrière donc, les flags ou le niveau. Donc une clé, et puis derrière, son flag ou son niveau, s'il a changé. Si les flags n'ont pas changé, ça ne sert à rien de la mettre dans une fiche de création. Mais si le flag a changé, typiquement cette clé-là, bah, le gars il est mort, il est décédé, bah, il faut dans les flags vous dire qu'elle est décédée. Lui, par contre, il est devenu maintenant, bah, il est depuis longtemps, il maîtrise bien, il sait maîtriser le bouton de confiance, il a le niveau technique pour être un des votants pour la fiche de création suivante, et on lui donne, on lui dit. Voilà, donc c'est tout pour vous. Et là, 3, ce qu'on voit 3, c'est le nombre minimum de votants requis parmi toute la liste de votants disponibles pour la prochaine fiche de création. C'est là qu'on voit la règle des tiers qui tenait à Galuel, c'est là qu'elle est en fait. C'est-à-dire
chaque transaction ?
Non, c'est-à-dire que pour chaque fiche de création, tu as une fiche de création, je passe de n+1, parce que je passe le 0 qui est un peu spécial, qui a que quelques clés donc, qu'on pourrait vous mettre dedans d'ailleurs. Mais qui sont en dur dans le logiciel, bon, c'est la faille, qui sont en dur dans le logiciel et qui permettent d'accepter la fiche de création numéro 0. Après ça, pour passer de n+1, dans la fiche de création n, tu as le nombre de votants minimum pour la suivante.
Ça, c'est la fiche de création.
Voilà. Typiquement, là, avec l'historique, tu sais que tu as une dizaine de votants. Bon, t'en as qui ont été virés justement par ces flags qui ont été changés. Un ticket de tout a été ajouté. Et pour la fiche de création suivante, bah, tu dis que sur ces 12 personnes, il en faut au moins 8 qui soient d'accord pour faire une fiche de création. Et si les nœuds, si le nœud, de toute façon, si les nœuds OpenUDC dans le UDC Create n'ont pas multiplié par TimeSigned avec les 8 signatures, avec au moins 8 signatures parmi les 12 votants, bah, ils prennent pas la fiche de création, c'est tout. Donc ensuite, c'est vrai qu'il y a encore moyen de tricher, quoi. Imaginons que parmi ces 12 votants, il y en a qui signent deux fois, etc. Bon, on va passer les cas au bord, déjà comme ça, ça me semble pas mal. Les cas aux frontières. Ensuite, c'est la première qui arrive, hein, la première avec 8 de fiches de création. Mais du coup, aussi, il peut y avoir plusieurs candidates entre eux, enfin, on peut discuter de plusieurs fiches de création, entre les votants, etc. Ou tous les votants suivent un algorithme à la con, c'est pas... Ça, au PNC, ils s'en foutent. Les nœuds, ils s'en foutent. Eux, pour eux, voilà, ils voient juste ça. Ils ont que ça. Et c'est l'idée, c'est de faire le plus simple dans le nœud. Tout ce qui peut, voilà, de faire le plus simple dans le nœud, parce que les nœuds, leur tâche principale n'est pas de faire de la démocratie, mais de gérer les transactions. Le reste, tout ce qui est accessoire, c'est accessoire.
Après la même remarque que tout à l'heure,
ouais.
Sur le X-
ah.
Pour le type.
Où ça?
Tout en bas des coins. Au milieu.
Ah non, mais ça c'est des précatites, ça.
Ah, ok.
Ça, c'est des précatites, il faut le virer justement. Comme j'ai dit, quand une chanson en setdoc, elle est à. Non, justement, il n'y a plus que le multipart MSignet. Avant, j'avais inventé plein de types MIM à la con. Okay. Et maintenant, il n'y a plus que le multipart MSignet. Donc, toutes les autres types MIM, d'autres que multipart MSignet, on peut les oublier. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est. Pff, voilà. C'était l'idée. L'idée, c'est la multipart MSignet. C'est tout du multipart MSignet. Et on s'en met plus. Et suivant l'endroit où il est, le multipart MSignet, on s'attend à avoir un chèque. Typiquement, quand on est dans Validate, on s'attend à l'avoir. Mmh. Ce qu'on appelle une transaction, et quand il est dans Create, ben, ça attend à avoir une fiche de création. C'est tout. Donc ça, ouais, on pourrait le virer.
Le format que tu viens d'expliquer là, ouais. Tu parlais d'utiliser des ranges avant, et maintenant c'est plus possible.
Des ranges.
Tu parlais d'utiliser des HTTP ranges.
Ah oui, non, mais ça c'est l'idée d'utiliser des HTTP ranges, c'est qu'ensuite, voilà, je vous ai dit, les bases de données, ouais. c'est des grosses matrices. Donc du coup, c'est des matrices de taille fixe. Si on veut par exemple savoir qui possède le numéro de série numéro 3, il suffit de me demander le range de 3 fois la taille, plus on a directement accès à un élément en demandant le range, comme ça. Bon, c'est une façon de débugger, c'est pas... Ça, tout ça, j'ai dit, pour l'instant, dans une première version, ça serait bien que ça soit pas accessible, mais ensuite, plus tard, on pourra peut-être le virer. L'idée, c'est vraiment create et validate. C'est ça. Et plus en fait, et l'idée, ça serait aussi quand même que de mettre un certain nombre de données annexes, comme les bases de données, ou les transactions, pour que un client puisse vérifier quand même l'historique d'une pièce, savoir de quel mois elle est sortie. Ensuite, dans un second temps, on pourra peut-être le virer, justement pour plus d'abonnés, je ne sais pas quoi, suivant la taille du réseau, etc. Mais pour là, au début, on va être avec un réseau avec de tout petits nœuds, a priori, et... Donc voilà, on a à peu près fini cette partie-là. Alors là, on a la propagation mécanisme. Donc les idées sur la propagation mécanisme. Mais je me disperse parce que c'est plus le sujet. On a fini la partie
database,
c'est sûr.
Est-ce qu'il y a des questions là-dessus?
C'est...
Il y en a forcément.
Il y en a forcément.
Parce que si, comme il a dit, c'est pas fini encore.
Ouais.
Donc, s'il y a des embranchements à faire, c'est le moment.
Donc, tu vas parler peut-être des transactions, c'est-à-dire comment les transactions entre clients et serveurs, entre nous et le serveur et
oui.
Serveur.
Enfin, là, déjà, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est quelque part. C'est... Enfin, je veux dire, pour moi, ça me paraît simple.
C'est
pour quand même
faire plus simple. C'est le. Ce que tu as parlé de la réplication en fait entre les différents nodes, ça me paraît vraiment pas encore bien.
Non, exactement. Ouais, bon, je vais en parler. C'est un peu lié à ça, justement, ce que j'ai mis entre parenthèses, parce que c'est la partie la plus floue, celle que je ne sais pas comment faire. Comme je dis, j'étais ouvert à faire du XMPP entre par-dessous pour la réplication. Je suis ouvert.
Mais, je pense pas que le protocole, pour l'instant, on s'en fout complètement. C'est
ah
vraiment
oui.
un... Tu que tu utilises HTTP ou XMPP ou ce que tu veux.
Pour l'instant, mais je croyais qu'il y avait des systèmes de propagation intégrée avec XMPP, justement, entre les... Je croyais que ça décrivait un...
Avec PubSub.
Non, c'est pas...
Tu peux monter ton propre... Avec XMPP, tu peux monter ton propre...
XMPP, en fait, c'est une fédération. Il n'y a pas de réplication entre les différents nodes.
Ouais.
C'est basé sur le système de DNS.
Ouais.
Et du coup, tu restes lié à un serveur, tu vois. Tu n'as pas de réplication comme ce que tu étais en train de
faire. Comme ce que c'est stable. Ouais.
Mais là, pour l'instant, la réplication, comme tu l'as présenté, pour l'instant, je ne vois pas.
Non, pour l'instant, on va y aller.
Pour l'instant, moi, je vois ça comme un système centralisé où, tu vas avoir trois de copains qui vont avoir la même chose. Et puis, comme ça, s'il y en a un qui tombe, par exemple, tu vas pouvoir utiliser l'autre. Moi, c'est comme ça que je le vois actuellement.
Oui.
Modèle IRC, par exemple.
Oui. Bah, c'est pas centralisé puisque chacun
est de. C'est centralisé.
Non, mais il n'y a pas de maître.
Ouais.
Tant qu'il n'y a pas de maître, c'est pas centralisé. Moi, pour moi, c'est pas. C'est centralisé dans le sens où.
Je veux pas vous passer. Ce que je veux dire, c'est centralisé, c'est que par exemple, tu vas pas pouvoir avoir deux communautés qui vont pouvoir communiquer entre elles. Ça va vraiment être deux îlots.
Ah,
ça, et si tu veux par exemple être dans deux communautés, bah, tu vas devoir avoir deux comptes différents, parler à deux serveurs différents et tu pourras pas du tout, il y aura aucune communication possible entre exactement comme IRC, tu vois. IRC, t'as un compte sur Freenode, tu peux pas parler sur FNet.
Oui, bah, c'est un peu logique. Quelque part, on fait une monnaie, on fait pas une autre. Tu vois ce que je veux dire, non?
Mais dans ce cas-là, tu restes lié entièrement au nœud sur lequel tu as créé ton compte.
Non,
et...
non. L'idée, c'est que si un nœud, que n'importe quel nœud puisse tomber, revenir, puis que...
Ce que je veux dire par nœud, c'est plutôt le...
Mais un îlot de nœuds, oui, t'es lié à un réseau de nœuds et basta. C'est eux qui gèrent ta monnaie et tu veux pas remettre...
Non, tu donnes ton entière confiance à un nœud et pas au réseau, je veux dire.
Bah, c'est un réseau de nœuds, je vois pas ce que tu veux dire, mais chaque nœud est identifié comme étant appartenant à une personne. Tu donnes pas confiance à une machine, tu donnes confiance à la personne qui l'a installé, c'est tout. Et chaque nœud appartient à une personne qui elle-même appartient à une fiche de création. C'est-à-dire que si t'as pas d'abord été rentré dans la communauté, tu peux pas mettre en place ton propre nœud. Et ensuite, une fois que t'as, toi-même, t'as ton fingerprint dans la liste,
tu peux monter ton nœud qui sera en fait une réplication des autres.
Voilà, une réplication. Pour l'instant, total dans une première version, et ensuite on essaiera de faire des réplications partielles pour pas forcément solliciter tous les deux.
D'accord, ça c'est quelque chose, faudra que j'y réfléchisse.
L'idée,
ça me paraît assez faible comme au niveau sécurité, au niveau. Au niveau du concept du réseau des nœuds, ça me paraît assez.
Ça te paraît, au niveau sécurité.
Il faut que j'y réfléchisse.
C'est pour ça. Non, mais t'as raison, faut réfléchir.
Plein de critiques.
T'as raison, faut réfléchir. Bah, c'est pour ça qu'il y a deux trucs, il y a des trucs optionnels ou pas. Mmh. Est-ce que les nœuds doivent donner la possibilité de rejouer l'ensemble des transactions ou pas? C'est la question qu'on peut se poser. Tu vois, tout ce que j'ai mis dans l'optionnel, j'ai dit, voilà, ça permettrait de rejouer. Donc, d'un client de vérifier l'ensemble des transactions. Mmh. Bah, est-ce qu'il faut que ça soit nécessaire ou pas? Ou est-ce qu'on fait confiance justement aux nœuds qui sont déjà faits? Voilà.
En fait, soit.
Sachant que toi-même, tu peux en faire. Hein.
Soit justement, c'est soit-même, on a un nœud, du coup, on stocke les infos, on n'a plus besoin de faire confiance à un nœud externe, donc plus on va envoyer les créations, c'est bon. Soit le nœud externe, enfin, en général, le client, il va s'assurer que ce nœud externe, il peut valider des transactions. Enfin,
donc, ce que j'ai dit que c'est optionnel, peut-être qu'il faut que ça soit pas optionnel, quoi. Donc, tout ce qui permettrait. Il faudrait que les nœuds soient mandatoires, que les nœuds permettent de rejouer les transactions. C'est-à-dire qu'il laisse les données. Qu'il laisse accessible les données nécessaires. Donc les signatures des transactions précédentes.
Si j'ai un client qui veut avoir une confiance assez grande à ce nœud-ci, je vais m'assurer que ces transactions elles sont.
Mais ensuite, les nœuds ils sont ensemble. Si les nœuds sont pas d'accord, c'est qu'il y a un problème. Ouais, et la majorité exclut la minorité. C'est-à-dire que si justement en plus les nœuds sont. Et en plus, on sait qui. Quelle est la personne qui a installé ce nœud-là qui pose problème, qui n'est pas d'accord avec les autres. Et si la délibération, la manifestation a voulu tricher, c'était je sais pas quoi, enfin s'il faisait que des conneries, surtout il a voulu tricher alors qu'on ne pouvait pas, bah on peut le virer de la communauté, carrément. C'est, on est tous dans le même bateau. C'est là où là, vraiment, on tombe sur la question qui revient souvent dans les conférences, c'est comment ça peut venir du multicompte, du boost planning et compagnie.
Qui lance la requête de création? Est-ce que c'est dans la création de nouvelles, donc c'est la création de nouvelles monnaies, de pièces, vu qu'il faut que ça suive une certaine règle tous les mois, je ne sais pas. Où est placé l'algorithme qui va faire ça et comment en avoir confiance?
Il faut le faire, mais il est externe. Il est externe et il faut le faire. Et les nœuds, ils s'en foutent.
C'est n'importe quoi. Après, on a la capacité de vérifier que cet algorithme-là ne va pas donner plus à une personne qu'à l'autre vérifiant la base de données.
Voilà, c'est dans la fiche de création, tu vérifies, tu as toutes les listes de clés qui ont été. Depuis, tu reprends toutes les fiches de création, du coup, tu as toutes les clés qui ont été données, tu cherches à chacun leurs propriétés, tu peux voir la table de confiance et vérifier que tout le monde.
Qu'il y a et comment tu vérifies.
Et ensuite, tout le monde a la même somme, tout le monde a même exactement.
Comment tu vérifies la source de la personne qui a le droit de faire les créations? Tu dis que c'est un script externe.
La fiche de création est signée. Elle est signée elle est signée par un nombre minimum de personnes votant. Donc il faut que soit tu aies réussi à obtenir la clé privée d'un nombre minimum parmi les votants. Il faut voler les clés privées des votants. Mais à part ça, tu peux pas.
Tu voles leur identité. En fait.
Tu voles leur identité. Quoi. Ouais. À moins de voler l'identité de l'autant, tu ne peux pas lui proposer notre fiche.
C'est toujours le human base, c'est toujours l'homme à un moment donné qui donne son feu vert, toujours. Mm. C'est pas un réseau de machines, pour une fois. On fait une monnaie, c'est un réseau d'hommes. La machine est là que pour aider à ce que ce réseau fonctionne, il ne faut pas oublier que là, voilà, c'est surtout certainement pas quelque chose de mécanique auquel l'homme devait se plier. Hein, c'est l'homme qui fait, donc, du coup, notamment, donc c'est l'homme qui signe à chaque fois. Donc du coup, c'est la monnaie qui est signée et non pas la monnaie qui signe l'homme. C'est pas l'homme qui est signé, c'est la monnaie. D'accord, c'est l'homme qui impose sa marque sur la monnaie, pas l'inverse. Quand je dis l'homme, c'est l'ensemble des individus de la communauté. T'as pas rappelé, je sais plus, mais normalement c'est chaque unité monétaire, c'est toujours valide ça, c'est chaque unité monétaire qui est référencée par rapport à son créateur.
En fait tu l'as dedans, parce qu'ensuite, ah oui, comment elle fait?
C'est quand même important.
De... Oui, c'est important. Ensuite, savoir comment est listé les créateurs, bah, sont listés tout simplement. Alors, il faut quand même déterminer est-ce que c'est par. Est-ce qu'on se fait un petit tri sur les clés pour les trier par ordre alphabétique, tout simplement, enfin par ordre pas numérique même, fixé hein, décimal. Ou est-ce qu'on les trie par ordre d'apparition? Moi, je serais d'accord, moi, je serais plutôt partant de les trier par ordre numérique à chaque fois. Et en fait, là, quand on voit cette fiche de création-là, ça veut dire que la personne qui a la clé dont le fingerprint est 0000 aura les pièces de valeur les pièces de valeur 1, les deux pièces de valeur 1 de numéro de série 0 et 1. Celui qui a la plus petite fingerprint, les nœuds savent que donc cette monnaie là pour la première transaction, elles appartiennent forcément, tu vois, il peut même créer la base de données. Il crée la base de données en fait. En fait, quand il reçoit la fiche de création, il crée tout de suite les fichiers de base de données qu'on a vu là-haut. Donc là, dans la database, création de chip nul. Donc par exemple, pour la première fiche de création, il va créer donc la base de données et dans 1, les deux premiers champs de 1 vont être les deux le fingerprint, deux fois le fingerprint le plus bas. D'accord? Ou pas?
Non, pas d'accord.
Pas compris. Très bien. Là, on a donc les facteurs qui dit donc deux pièces de 1 pour la fiche de création numéro 1. Là derrière, on a toute une liste de clés, bon, qu'on changeait seulement. Il arrive ces nouveaux clés. Bon, il va les chercher dans sa base de données. Il possède aussi toute la liste. Il possède la liste de toutes les clés possibles qu'il connaît dans le système. Donc il les change. S'il y a des nouvelles, il les met à sa place dans l'ordre par ordre numérique, tout simplement. Il les trie. Et le clé de fingerprint, il génère sa base de données, donc celle-là, pour la création sheet numéro 1. Il va générer une base de données, le 1.bdb. Il va mettre au début deux fois le finger prix le plus bas, ensuite deux fois le finger prix le, juste après, le plus élevé, et compagnie. Voilà. Okay. Vous voyez ?
Oui, j'ai compris.
C'est assez simple quand même. On ne peut pas difficilement faire plus simple. Je trouve qu'on peut difficilement faire plus simple.
Ouais, non, c'était quand tu disais que c'était le premier qui avait, et puis...
Non, non, non. Et voilà, c'est comme ça.
En fait, c'était en fait tous, en fait.
Non,
tous.
Du coup, à chaque nouvelle suggestion derrière, il va régénérer voilà, de nouvelles databases en fonction donc, des clés. Il a tout pour le faire. Okay. Et ensuite, bah, quand il recevra une transaction, bah, une transaction, c'est quoi ? Maintenant, bah, on arrive en deuxième partie, là.
On a fini pour cette partie. Enfin, moi, je n'ai pas vu un point, je veux qu'il est clair. Mm-hmm. Parce que moi, dans mon esprit, il y avait deux choses liées à l'unité de monnaie. Bon, alors, il y a le créateur initial, bon, très bien, tu viens d'expliquer. C'est l'ordre dans la base qui est en relation avec l'ordre dans la filtration, mm-hmm. Donc on fait le lien entre les deux. Mais il y a un deuxième point, c'est le propriétaire de l'unité de monnaie. Alors, le créateur n'est pas le propriétaire.
Oui, oui.
Non, mais créer la monnaie donc, pour lui, et puis il fait une transaction.
Non, c'est, on dit, il n'y a pas de créateur, il n'y a que des propriétaires. Il y a le propriétaire numéro 0, c'est le propriétaire 0. Le créateur, c'est le propriétaire 0.
Oui. Oui, mais il faut qu'il reste le propriétaire.
Pourquoi ?
Il faut qu'on puisse vérifier 10 ans plus tard.
Ah, dans ces cas-là, il faut garder.
On retrouve bien ces unités monétaires.
Dans ces cas-là, il faut garder justement l'historique des transactions.
Voilà, c'est ça. Oui, très bien. Bon, voilà, c'est ça.
Ce qu'on avait dit qui était optionnel.
Est-ce qu'on va pouvoir dire cette unité monétaire a été créée il y a 10 ans par tel individu ?
Bah, ça dépend de la taille des logs, ça dépend de, ce qu'on, de quelle taille de log. Alors, est-ce qu'on met dans. Est-ce qu'on le stocke de cette façon-là ? Quelle est la taille des logs contraints ? Il faut décider d'une taille de log contraint, sachant qu'on ne pourra pas traîner des logs infinis.
Ah, donc tu veux garder la taille des logs pour pouvoir refaire le processus de transaction ? Ouais. Tu attaches pas à l'unité monétaire son créateur de façon éternelle ?
Non.
Moi j'aurais fait ça.
Non, on ne fait pas de hash, de hash, de hash, de hash, de hash.
On ne fait pas ça ?
Non.
D'accord, mais c'est une autre option.
Oui, c'est une autre option.
Effectivement, si on trace les logs, on peut le refaire, ouais. On peut le recalculer. Mais du coup, c'est pas immédiat de savoir, par exemple aujourd'hui, si je prends un billet Banque Centrale, c'est tout de suite qu'il a été créé à partir de 2012 par Draghi, c'est marqué dessus.
Bah là aussi.
2012 Draghi, et avant je sais que c'est 2007 Trichet.
Mais c'est pas qu'il a été créé par Draghi, c'est juste qu'il a été créé par un certain nombre de temps.
Oui, mais là, en l'occurrence.
Et qu'il a appartenu au début, et qu'il a appartenu au début.
Ouais, non, mais je parle pas techniquement, hein. Je parle conceptuellement. L'unité de monnaie est attachée à un individu. Ouais. C'est l'individu qui est la justification
qui a
que
cette unité
de monnaie ait été créée, il n'y en a pas d'autre.
Oui.
Donc, il paraît pas illogique, si tu veux, que l'unité de monnaie, quel que soit l'endroit où je la regarde en même temps, mm-hmm. je puisse savoir quel est l'individu qui au départ a justifié la création de cette monnaie. Mm-hmm. Alors tu me dis, effectivement, je peux reconstituer les logs et voir toutes les transactions, mais je vais galérer.
Le fait même, par contre, ce qui est aussi mandatory, c'est de garder toutes les créations de cheats depuis le début.
Même ça ne permettra pas de dire.
La question d'après, c'était
sur la base de données. Attends, je finis. Base de données 2025. Tu dis voilà, sur mon compte, j'ai des unités de monnaie. Celle-là, elle vient d'où ? Mmh. Est-ce que je sais qu'elle a été créée en 2015 sur le compte de Linkmov ? Donc je sais qu'il a existé, donc j'ai pas de doute quant à la légitimité de cette monnaie. C'est pas un fantôme qui l'a créé, quoi.
Ouais.
Donc je sais, si je regarde l'ensemble des unités de monnaie de Linkmov, je sais qu'il devrait en avoir tant et pas plus. Donc tu vois ce que je veux dire ?
Non, mais tu le sais. T'as ton unité, t'es en 2025, t'as une unité de monnaie, c'est, elle s'appelle 1, donc puis les versions numéro 1. 1,28.
Ah, son numéro me dit c'est quel.
Exactement,
ah,
ton numéro te dit ensuite c'est qui. Ensuite tu vas chercher les fiches de création, pof,
ah,
de
oui.
L'époque.
Ah oui, d'accord, c'est parfait. Ah, d'accord. Le numéro de l'unité me donne la fiche de création correspondante, donc je
retrouve. Elle te donne à la fois la fiche de création et le. Et
ah
le,
ouais,
et le,
d'accord, c'est génial, j'ai pas pensé.
Enfin, c'est simple,
c'est tu réponds à
ce que. Ah ouais, c'est hein? Génial. Ah mais c'est génial.
C'est
tu l'avais jamais expliqué.
Bah, pas vous.
Ah, j'ai compris, je sais pas le détail, mais j'ai compris le classique. D'accord. Ah, ouais, génial.
C'est simple, quoi. C'est
non, vrai, faut que c'est génial.
C'est performant. Bon, c'est pas génial, c'est pas.
Et ça me paraît essentiel, hein, parce que une partie de la confiance, c'est de pouvoir dire, voilà, comme il y a tant d'unités monétaires, je peux retrouver ça par l'ensemble des historiques des individus qui ont fait partie de la communauté. Hein. C'est là qu'ils sont morts, là qu'ils sont arrivés. Et si je refais un calcul à la main, je peux se dire, bon, il devrait y avoir tant de monnaie, je vérifie, oui, c'est ça.
Donc, il faut voir deux choses. Voilà. On peut même faire un truc centralisé, si c'est juste un truc centralisé qui donne à tout le monde le pouvoir de tout rejouer.
on pourrait très bien faire un truc centralisé.
Oui,
d'ailleurs, dans le premier temps, c'était de faire ça, de faire la 0.3 n'est pas sortie, mais la 0.3, c'était ça, c'était de sortir ça, avec tout ce que je vous montre derrière, et puis même si t'es centralisé, même si t'es... Bon, le problème, c'est que si le serveur tombait, ben, t'es un peu dans la merde. Mais voilà, même si t'es centralisé, de toute façon, les signatures, elles ne le sont pas. Coup, vous voyez voilà. Et donc, du coup, on peut avoir confiance, même si c'est hébergé à distance, parce que ce n'est pas le serveur qui va inventer la signature qui va pouvoir signer pour quelqu'un d'autre. Oh, ça me motive, ça. Non, ça me... Parce que je me perds du temps en ce moment à réfléchir sur la... Mais bon, il faut quand même réfléchir que le serveur, il n'a pas le droit de tomber. Quoi. Parce que s'il commence à y avoir 100 personnes qui comptent dessus, et qu'il tombe... Voilà, on pouvait partir. C'était l'idée de la 0.3 qui n'est toujours pas sortie, mais c'était l'idée de la 0.3.
Du coup, au niveau de la monnaie, il n'y a pas de possibilité de fusionner ou de... Par exemple, si... Est-ce qu'on a que des unités fixes et qu'elle reste fixe, pas juste fixe, ou alors est-ce qu'on dit que, enfin, on attend monnaie, tu peux recréer à partir de...
Alors,
c'est
un sujet complexe,
parce que
exactement, non, c'est pas très chaud sur la fusion.
Mais
alors, vu de loin, c'est possible la fusion, mais c'est vrai que vu de près, on se dit quand même que c'est peut-être très peu chiant, parce que faire de création. Vu de loin,
c'est utiliser, c'est plus simple. Parce que ça vient de la même création. Enfin, je veux dire, ça change rien des mécanismes.
Alors que fusionner, oui, c'est plus compliqué, mais on pourrait très bien dire la valeur de 1 maintenant, Faut rassembler les pièces des numéros de série côte à côte, tu vois, faut que...
Ça fait faire
des tonnes de transactions préalables avant de pouvoir permettre la fusion. Parce qu'il faut recréer une base de données propre, alors que l'argent, il s'est dispersé un peu tranquillement. Ouais, au niveau des petites monnaies, fusion typiquement, c'est de récupérer donc le fichier de création de... ce fichier-là, de la fiche de création numéro 1. Maintenant, ça vaut plus rien, un de l'époque, ça vaut plus rien du tout. Et donc, de faire une création de chinum qui s'appelle plutôt plus 1, mais 1F, et dedans, on reformule, et au lieu on fusionne toutes les 1, des fiches de création de 1, 2, 3 et 4, dans une seule, on refusionne plusieurs configurations dans une seule base de données de valeur 4 et donc de sheet num 1,4. Tu vois, il faut donner tout ça comme. Pour moi, la fusion, c'est un concept qui peut encore plus attendre que d'autres. Mais tu vois, dans l'idée, c'est un peu possible, mais c'est quand même assez beau.
Donc, comme on a montré, une fois qu'on a initialisé le truc,
de loin, ça a l'air simple.
Même en pensant que ça croît vite et avec beaucoup de membres.
Après, c'est pas forcément sur la croissance, c'est juste sur la félicité de tous les jours. Si du coup, j'ai plus qu'une pièce de 100, je vais pas te donner 100.
Et puis, il faut regarder avec
moi. Je peux te donner que 10, et du coup, fais merde. c'est surtout au niveau de l'aspect pratique, en fait, que je vois ça.
Attends, j'ai pas compris.
Non, si on dit qu'une fiche, ça a une valeur 100, que je sais pas, je viens de t'acheter un bien qui a une valeur 5.
Ouais. Du coup, si tu manques de petites monnaies, oui.
C'est cette facilité-là, si c'est pour l'échange, c'est ensemble.
Bon, là, au niveau scalabilité, on est parti sur quelque chose de très bas. Enfin, je veux juste dire, vous voyez, 20 octets, une clé, ça fait des fichiers qui sont vraiment très bas, mais on peut monter à des millions d'utilisateurs avec des fichiers qui sont petits, alors que maintenant, on a discuté de teraoctets, quoi. Là, au niveau de la... Ouais, on n'a pas trop de soucis de scalabilité, voilà, de scalabilité de ce point.
Pour revenir, je sais que c'est pas exactement le sujet, mais à la fusion, en fait, c'est la création d'une nouvelle monnaie, c'est ça?
Mais la fusion, ça serait plus. C'est plus nécessaire, ça serait plus nécessaire pour moi pour optimiser les. C'est l'optimisation dans 10 ans. Enfin, c'est un concept. Moi, je m'étends pas trop.
C'est ça, il faudra tellement de temps avant d'épuiser ça, de toute façon. Il faudra genre 40 ans. Ouais. Que d'ici là, on aura trouvé des solutions. Il ne faut pas non plus. C'est pas assez. La taille technique qui ne presse pas du tout.
Par contre, du coup, la division.
On sait qu'il y a des solutions, mais je veux dire, c'est même pas la.
Quel intérêt, puisque c'est pas une monnaie. Voilà. C'est pas une monnaie assurément déflationniste comme le Bitcoin. C'est au contraire une monnaie plutôt.
Oui, mais je vais te donner un exemple. Enfin,
tu fais de la monnaie comme avec ta caissière.
Bien sûr, c'est divisé, donc il faut bien le diviser.
Non, mais il y a des pièces. Il y a quelqu'un qui a collecté dans son porte-monnaie qui a des tonnes de petites pièces et qui préférait. Qui serait d'accord pour les échanger contre des grosses. Comme ta caissière. C'est la même problématique qu'à Tableau Blanc.
Du coup, il va falloir interroger des pires ailleurs pour faire des changements.
Pas besoin d'interroger les pires ailleurs. Enfin, tu interroges un pire et tu t'attaques tout sur tout.
Tu prends un nom dans la liste des gens que tu connais et puis.
Ouais.
Non, mais après, d'un mois sur l'autre, au fil du temps, si on se rend compte qu'on a besoin de plus de trucs, on recrée des unités de ce type-là de façon préférentielle, je veux dire, à la limite, puisque ça permet à chaque fois de choisir les unités nécessaires. Donc à la limite, on s'adapte au fur et à mesure.
De faire des grosses monnaies, c'est juste de l'optimisation. De place.
Il faut démarrer avec des unités 1, et puis il y a j'ai vu là, par exemple, tu allais jusqu'à 2048, mais il n'y a aucune limite, c'est ça?
Ah non, il n'y a aucune limite. Non, il est puni, mais bon.
C'est bien ça. D'autres questions? Moi, je suis content. Je pensais déjà.
Merci.
Je suis en train de voir de calculer. En fait, t'es en train de rebâtir l'ensemble des antinaturels, en fait. Okay. Ah oui, tu vas les avoir tous. À l'infini, tu converges à l'infini. Là.
C'est comme les Pokémon. bon, on passe là-dessus sur ça qu'on peut effacer.
C'est bon? Pour cette partie-là, d'autres questions, Stéphane?
Non,
ça te paraît. Donc, comme il a dit, comme c'est à travailler encore ça, puisque c'est pas encore totalement. C'est le moment, quoi. Il ne faudra pas venir. Faut pas le faire en 6 mois s'il y a des trucs qui sont arrêtés, dis non, mais c'est maintenant, peut-être. Donc, s'il y a des trucs qui vous intéressent, peut-être là-dessus. On va essayer de creuser ça pour voir s'il n'y a pas des. On fait déjà bien comprendre le principe, je pense, et puis voir après si on a soi-même des. Les idées pour essayer d'améliorer les marques.
Au niveau du CRET ou du Validate, il faudrait définir du coup les interfaces, enfin les protocoles d'échange entre un client et un node.
Mais surtout la propagation mécanique. Donc l'interface, c'est ça, c'est vraiment un multipart MCNet. Avec au début, si par contre on peut mettre quand même un type. Dans multipart, c'est des data de type MIME. Donc on peut mettre type fiche de création. Ou type texte HTML, mais on même pas, on n'est même pas obligé. Okay, qu'est-ce qu'on fait, tu vas dire, quand on fait un post sur HKP, c'est quoi le même truc?
Comment ça, post, tu mets la...
C'est quoi le type MIME, envoyé par
quand tu fais structure. Un...
Structure. Post, c'est...
Non, mais quand on fait justement pour le serveur HKP, est-ce que HKP requiert un type MIME particulier ou pas?
Je connais pas bien HKP.
Enfin, c'est... D'accord. Je vais juste regarder un coup, enfin, on s'en fout. Il s'en fout du type MIME, on promet ce qu'on n'importe quoi.
Après, il y a pour la transaction, vous pouvez en fait
dire. Ouais. Bah, attendez, je vais juste.
Plus en détail.
Regardez rapidement mon code quand même. Alors là je commence. Là, c'est une petite parenthèse sur le code review. J'ai pas lancé ces scopes, c'est bête. Il ouvre ma fonction HKP add, voilà. Est-ce que je regarde le type MIME? Non, je m'en fous complètement du type MIME. Bon. Voilà. Donc HKP doit s'en foutre complètement du type MIME. Et peut-être que GnuPG, quand on fait un SyncSyncK, il envoie un type MIME, mais on s'en fout complètement de toute façon. Bon, on peut le définir, hein, mais c'est défini ou pas. Bon, il faudrait faire la trace gpg-vv, moins verbose, je crois. Peut-être, je crois qu'il envoie le type. Je sais pas. Ou faire un petit coup de TC de T-Sharp quand on fait un gpg-5k, voir quel type il m'est envoyé. Pour culture générale. Pour essayer de faire un truc pareil, mais on s'en fout. Dans le HKP, il s'en fout du type MIME, mais nous aussi, on s'en fout. Donc, pour les fiches de création du type MIME.
Non, pour la création, non. Si on a juste le format que tu as défini avec le GPG,
alors, si, c'est quand même du multipart MCNet au début. Ouais. Ensuite, à l'intérieur du multipart MCNet, c'est quoi le type MIME de ce que je vous ai défini? Là, on peut définir un IDC, T création, X création, si vous voulez, il n'y a pas de souci.
Ça pourrait être un texte.
Mais en fait, derrière, vous voyez, les nœuds, ils s'en foutent. Comme HKP, quoi, on s'en fout. Le type MIME.
Du coup, il y aurait, parce qu'au niveau de la transaction, comme tu as dit, tu vas en parler un peu plus après ou...
Je vais en parler là tout de suite. Je vais en parler là tout de suite. On reprend ça. Voilà, le format usé pour transaction. Donc, c'est quoi une transaction?
Alors,
c'est juste un message qui dit, voilà, je donne...
Alors, attends, c'est fini là, pour la partie...
Ah oui,
là,
ouais,
Donc je vais arrêter et j'enregistre.